Unis au corps et au sang du Christ, nous voulons louer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui guérit toutes mes infirmités. C'est lui qui arrache ma vie à la tombe. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Continuons à prier pour demander maintenant au Seigneur de nous éclairer par sa parole. Seigneur notre Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants. Parce que nous avons entendu son appel, nous nous sommes rassemblés ici pour te louer, pour écouter, pour remettre entre tes mains tout ce qui nous oppresse et recevoir de toi ce dont nous avons besoin. Merci d'être présent au milieu de nous pour nous instruire. Oui, instruis-nous, enseigne-nous, afin que nos craintes et nos découragements, notre vanité, notre arrogance, notre incrédulité, nos superstitions s'effacent devant ta grandeur et ta bonté, afin que nos cœurs s'ouvrent les uns aux autres et que nous puissions nous comprendre et nous apporter mutuellement du secours, afin que ce culte soit une heure lumineuse où il nous soit donné de voir le ciel ouvert et de voir descendre un peu de clarté sur ce monde obscur. Car en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont nouvelles. Et cela nous concerne. Aussi vrai qu'en Jésus-Christ, tous les hommes sont sauvés. Mais toi seul, tu peux nous le dire et nous le montrer maintenant. Dis-le donc, montre-le-nous, ainsi qu'à tous ceux qui, en ce dimanche, se réunissent pour te prier ici d'entière et partout dans le monde. Amen. Le texte de la prédication que nous allons écouter, c'est celui qui est indiqué pour les églises catholiques et réformées pour ce dimanche. C'est Jean 12, versets 20 à 33.
Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et ensemble, ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue. » L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perd, et celui qui ne s'attache pas à sa propre vie dans ce monde la maintiendra en vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée et je ne sais que dire. Père, Sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas pour moi que cette voix retentit, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir.
Si nous servons notre Dieu, notre Père, c'est à Jésus que nous le devons. C'est ce que je vais développer dans cette prédication. Si j'obéis au commandement de Dieu, je le dois à Jésus-Christ, mon Sauveur. Parce qu'il y a trois obstacles pour que nous servions Dieu. Il y a trois obstacles insurmontables pour nous. C'est Jésus qui a dû les vaincre pour que nous puissions, oui, comme lui, servir Dieu. Que nous puissions, comme Jésus, obéir aux commandements de Dieu qui sont la vie. Ces trois obstacles sont premièrement notre nature humaine, notre cœur. Deuxièmement, le prince de ce monde. Troisièmement, notre appartenance aux nations. Premier obstacle, notre cœur, notre nature humaine. Jérémie a annoncé que Dieu ferait une alliance nouvelle. Je vais juste lire ce texte en Jérémie 31. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Jérémie est un prophète qui a eu un ministère long et terriblement éprouvant. Il a été appelé très jeune. Et comme son ministère serait vraiment très très dur, le Seigneur lui a dit de ne pas se marier. Car il verrait les malheurs qu'il a annoncés des dizaines d'années à l'avance. Il les vivrait lui-même. Et pendant toutes ces dizaines d'années où il annonçait au peuple les paroles du Seigneur, espérant qu'il y aurait encore un sursaut, un retour au Seigneur, que Jérusalem pourrait ainsi être sauvée. Il a assisté à une obstination dans le mal, une incapacité du peuple à se convertir, si bien qu'il a fait ce constat terrible. Au chapitre 17, verset 1, il dit « Le péché est gravé dans le cœur ». C'est-à-dire que l'injonction au mal est inscrite dans le cœur humain. Et au même chapitre, au verset 9, il constate des abusés. Le cœur humain est tortueux, par-dessus tout, gravement malade. Qui peut le connaître ? Notons que dans ce verset, Jérémie dit que le cœur est tortueux. Nous nous trompons nous-mêmes en croyant que nous faisons le bien alors que nous faisons le mal. Nous ne voyons même pas le mal que nous faisons. C'est pour ça que Jésus a prié sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il dit aussi que notre cœur est gravement malade. C'est-à-dire nous sommes des gens blessés par le mal. Nous aussi, nous le faisons, mais nous sommes aussi blessés par le mal que nous avons subi. Et les chrétiens en subissent aussi. C'est pour ça que Jésus dit que nous ne devons pas nous attacher à la vie en ce monde, car les persécutions peuvent être vraiment terribles pour les chrétiens. Il n'y a pas que les persécutions physiques, il y a aussi toute la destruction morale. Et le mal subi, les blessures subies nous rendent malades, incapables d'écouter la parole de Dieu ou de la pratiquer. Oui, Dieu a donné à Jérémie de voir, de sonder la profondeur de la nature humaine. Et Jérémie en a été vraiment désespéré. Mais quand il y a cette révélation, il y a aussi une grande promesse de Dieu. C'est ça que nous trouvons dans Jérémie. Il nous a transmis la plus belle des promesses que je viens de lire. Je vous la relis. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. Alléluia. J'inscrirai mes instructions, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et seront mon peuple. Voyez que l'injonction au mal inscrite dans notre cœur humain va être remplacée par une injonction au bien. Le devoir d'obéissance sera remplacé par un désir d'obéissance qui proviendra du plus profond de nous-mêmes. Et au lieu du désespoir permanent, quant à notre nature humaine, nous serons toujours pleins d'espérance parce que Jésus nous a aimés jusqu'à partager notre condition humaine et pour la transformer. De l'intérieur, la transformer de l'intérieur et non plus par des commandements qui se seraient rajoutés de l'extérieur et devant lesquels nous serions à nouveau désespérés. C'est ce que aussi David avait annoncé dans le psaume 51 qui nous a été lu par Patrick tout à l'heure. Vous avez vu, vous aussi, en écoutant le psaume 51, combien David était vraiment désespéré par la gravité de son péché après un adultère et un meurtre. Mais que dit-il encore ? Il dit au Seigneur, voici, tu aimes que la vérité soit dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Et les deux mots employés ici en hébreu sont très rares. Sont uniques d'ailleurs dans toute la Bible, c'est traduit dans la traduction que j'ai utilisée par ténèbres ou nuit, c'est-à-dire tout ce qui est en nous profond, même inconscient, comme ténèbres que nous ne connaissons pas. Et Jésus a cette même vision que David de la nature humaine, il dit que ce n'est rien de ce qui entre en nous qui nous souille. Ce qui nous souille, ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de nous. C'est de nous-mêmes qu'il y a le problème. Jamais quelque chose d'extérieur nous rend impur. Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à regarder des images porno ou des images de violence, de sadisme. Même si ces images porno nous blessent ou ces images de violence vis-à-vis des autres nous choquent, cela nous choque, cela nous blesse aussi, parce que nous nous rendons compte que cette possibilité-là de se dégrader soi-même ou de faire souffrir tellement quelqu'un d'autre, cette possibilité, elle est aussi dans notre nature. Et il y a de quoi donc se désespérer, mais Jésus est venu assumer ce désespoir qu'il y a dans la nature humaine. Il a connu le désespoir avant la croix, parce qu'il s'est vraiment coltiné à la nature humaine mauvaise, il s'en est chargé. Dans le texte que Anne nous a lu dans Hébreux, on nous dit qu'il a prié avec larmes, il a prié avec des cris de souffrance vers Dieu avant sa crucifixion. Et ici, dans notre texte que Daniel a lu dans Jean, il nous a dit que Jésus, son âme a été troublée. Maintenant, mon âme est troublée, dit-il. Ce verbe est très fort. Il est employé dans le récit de la résurrection de Lazare, qui a été lu à l'enterrement de Francis. Et Gérard Dugelet nous avait dit, là, il y a le mot troublé deux fois. Jésus est troublé devant la tombe de Lazare. Ces forces de mort qui sont en nous, Jésus s'y est confronté jusqu'au bout. Et voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux dit, il est notre grand prêtre. Il est mort pour nous sortir de notre mort. Et il est venu exaucer la prière de David dans le psaume 51. David demande au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Psaume 51, verset 12. C'est très rare, le verbe créer, dans une prière. Crée en moi un cœur pur. Jésus est venu accomplir la prophétie de Jérémie que le Seigneur donnera un cœur nouveau à son peuple. Un cœur de chair. Ça veut dire un cœur capable d'aimer, comme Jésus aime. Un cœur dans lequel sera gravée la parole de Dieu et non plus le péché. Pourquoi les évangiles s'attardent-ils plus sur les souffrances de Jésus que sur sa résurrection? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi plus de chapitres sur toute la souffrance et la mort de Jésus que sur la résurrection? Il y a même un évangile qui n'en a qu'un chapitre sur la résurrection. Parce que c'est dans sa souffrance que nous voyons ce que ça signifie pour lui d'assumer notre nature humaine. Et le texte de l'Épître aux Hébreux que Anne nous a lu nous dit que Jésus est devenu parfait. Non pas qu'il ne soit pas parfait à la naissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire que lui qui est parfait, puisqu'il est né du Saint-Esprit, il est devenu parfait? Encore une nouvelle perfection, oui. Oui, une nouvelle perfection. Parce qu'il a assumé notre nature humaine, désespérément faible et obstinée dans le mal. Et cette perfection-là, c'est pour nous qu'il l'a acquise en plus. C'est pour cela qu'il a dû vivre la passion, la souffrance, dans la prière voyez, ici encore, il prie. Tout de suite, il prie dans le trouble. Père, qu'est-ce que je vais te demander? Jésus a donc surmonté, lui seul, l'obstacle pour servir Dieu. C'est notre nature humaine, elle-même. Voilà pourquoi il peut dire ici, Jean 12, 26, « Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. » Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Quelle promesse ! Là où je suis, dit Jésus, là aussi nous serons. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le deuxième obstacle, absolument insurmontable pour nous, pour servir Dieu, c'est le prince de ce monde. Donc il est question ici dans Jean 12. Depuis que nous avons commencé à discuter avec le prince de ce monde, nous sommes des perdants. C'est le sens du récit de Genèse 33. Adam et Ève ont commencé avec une discussion avec lui, le prince de ce monde, et ils ont perdu. Et ce sera toujours ainsi. Nous discutons avec le prince de ce monde et invariablement, c'est notre perte, car son intelligence est bien supérieure à la nôtre. Il est pur esprit. Et nous, nous sommes esprits dans un corps, ce qui nous limite. Mais il y a une chose qui nous est révélée par la Bible. Le prince de ce monde n'a jamais la parole en premier. C'est Dieu qui a la parole en premier. Le prince de ce monde ne peut venir qu'après la parole de Dieu. Ça, pour ceux qui savent l'hébreu, c'est très clair, car les premiers mots qu'il utilise pour parler à Adam et Ève sont, je veux vous le dire en hébreu, « afki ». Et ça se traduit littéralement par « à plus forte raison ». Voilà. Il rebondit toujours sur une autre parole. Mais lui, il n'a pas la parole en premier, puisque quand il commence à parler, il dit « à plus forte raison ». Après, ça lui permet d'ajouter des choses et c'est ça qui est notre perte quand nous commençons à discuter avec lui. Il n'a pas la parole en premier car lui-même est une créature. Et il ne peut rebondir que sur une parole première de Dieu pour essayer de nous en faire tordre le sens. Et il y arrive. Voilà pourquoi la Bible dit « Tout ce que nous ajouterons à la parole de Dieu, c'est notre perte. » Et l'expérience d'Israël montre que c'est ainsi que nous traitons la parole de Dieu. Nous ajoutons à la parole de Dieu. Voyez les discussions que Jésus a eues avec les spécialistes de la parole. Il dit bien qu'ils ont la bonne tradition. Le salut vient des Juifs, il dit. Mais il dit aussi, vous avez ajouté vos propres traditions. Jésus est la parole. Il est la parole de Dieu devenu être humain. Et il accomplit les Écritures sans rien y ajouter de faux. Il a ajouté ses paroles à lui. Nous croyons à l'Écriture et aux paroles de Jésus, parce qu'il avait l'autorité pour le faire, parce qu'il a remporté la victoire contre le prince de ce monde. Il l'a jeté dehors, dit le texte ici, dans Jean 12. Et c'est ce qu'il appelle, Jésus, le jugement de ce monde. Le jugement de ce monde, remarquez bien, consiste à jeter dehors le prince de ce monde. Et non pas à juger l'être humain. Les êtres humains, Jésus dit qu'il va les attirer à lui, tous. Il va, j'attirerai tous les hommes à moi quand j'aurai été élevé de la terre. Il n'y a même pas le mot homme, j'attirerai tous à moi. Dans Jean 12, 32, voilà ce que dit Jésus. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Et Jésus est le seul être humain de ce monde à avoir pu dire, le prince de ce monde n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Il ne possède rien en Jésus. Rien de ce qui est en Jésus n'appartient au prince de ce monde. Mais tout ce qui est Jésus nous appartient. N'est-ce pas glorieux? Ne pouvons-nous pas rendre grâce infiniment à Dieu pour ce don qu'il nous a fait en nous donnant son Fils? Et il y a un troisième obstacle insurmontable que Jésus est venu vaincre, un obstacle à ce que nous soyons ceux qui servent Dieu, le Dieu vivant. C'est notre appartenance aux nations. Dans la Bible, il y a ceux qui appartiennent aux nations et ceux qui appartiennent à Israël. Seul Israël est dans ce monde, dans une alliance avec le vrai, unique Dieu, le Dieu vivant. Écoutez comment Paul qualifie les nations autres que Israël. Éphésiens 2, verset 12. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Avant que Jésus-Christ vienne, nous, les nations, nous étions sans Dieu dans le monde. Nous ne pouvions donc pas le servir. C'est cet obstacle auquel Jésus est confronté à ce moment de son existence ici, quand les Grecs, par l'intermédiaire de Philippe et André, demandent à le voir. Et Jésus ne va pas directement se faire voir aux Grecs. Il faudra qu'ils attendent que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire crucifié sur une croix en tant que roi des Juifs. Il faudra que ces Grecs reconnaissent en Jésus le roi des Juifs. C'est ce titre que Pilate a fait écrire sur la croix au-dessus, par mépris pour les Juifs, mais nous le considérons comme la vérité la plus glorieuse pour Israël. Jésus est venu pour Israël, pour être le roi des Juifs. Et est-ce que vous avez remarqué dans le psaume 51, où David demande au Seigneur de lui créer un cœur pur, il demande à la fin, au verset 20, « Seigneur, rebâtis Jérusalem, fais du bien à Sion, alors on t'offrira des sacrifices de justice. » Et Jérémie aussi, quand il annonce une nouvelle alliance, à savoir que Dieu écrira sa loi dans les cœurs humains, annonce en même temps le retour des Juifs sur leur terre, la reconstruction du pays d'Israël, de sa capitale, Jérusalem. Jésus est venu pour Israël, sinon il ne serait pas le Messie annoncé par Jérémie, accomplissant la nouvelle alliance. Et par sa mort glorieuse, par sa résurrection, les Grecs, les nations sont associés à la même promesse qu'Israël. Mais cela a profondément troublé Jésus, au point qu'une voix du ciel est venue dire, et plus à nous-mêmes qu'à Jésus, « J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. » Jean 12, 28. Glorifier le nom du Seigneur, ça c'est tout le programme pour lequel Israël vit. C'est ce pourquoi Jésus vit. Et c'est ce pourquoi nous, maintenant, nous les Grecs, les nations, nous pouvons vivre par le mérite de Jésus, le roi des Juifs. Si je sers mon Dieu et Père, je le dois à Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.